Vous écoutez RTL.
RTL, il est 18h. RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel.
Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'infos. Et à la une, Renault, toujours debout.
Toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane, toujours debout.
Et d'attaque pour un nouvel album, Information RTL. Renaud sera dès lundi de retour en studio, tout juste sorti de Maison de Repos. Le chanteur va enregistrer 12 titres pour enfants, notamment à Bruxelles. Des textes drôles et émouvants, écrits il y a 2 ans. La musique est signée Roman Cerda et Renan Luce, son gendre. Alors dans RTL Soir, on va vous emmener en coulisses d'un retour qui va faire à coup sûr un boucan d'enfer avec le chef du service culture d'RTL. Tout à l'heure, Anthony Martin. RTL Soir, première édition, avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Les titres du journal de 18h.
Le procès d'une affaire qui fait pchit, le groupe de Tarnac comparé aujourd'hui à Paris pour la dégradation d'une ligne SNCF il y a 10 ans. Ils ont longtemps été accusés de sabotage terroriste. Une réunion sous haute tension à Mayotte. La ministre des Outre-mer rencontre en ce moment les syndicats et les citoyens en grève générale depuis plus de 3 semaines contre l'insécurité et l'immigration clandestine. À suivre également ces infirmiers qui pourront jouer au docteur. Un statut spécial va être créé pour leur permettre notamment de faire des prescriptions. Des emplois comme s'il en pleuvait, les créations de postes s'accélèrent dans le privé, les entreprises embauchent à nouveau, nous irons en Alsace. Et puis, viré comme un malpropre par un simple tweet, le chef de la diplomatie américaine est mis sur la touche par Donald Trump. Pour la première fois, une femme va diriger la CIA et c'est une terreur. La bourse de Paris, elle finit en repli de 0,64% à 5242 points. Les courses à Chantilly, il fallait jouer le 8, le 6, le 3, le 11 et le 9.
À la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité, c'est la plus grosse maternité de France en raison de l'immigration. Pour éviter que les bébés naissent automatiquement français, le gouvernement réfléchit à un statut extraterritorial pour l'hôpital de Mayotte. Mais est-ce que c'est possible? Ça marcherait comment? Dans la foulée, la colère d'une mère face à la polémique. Bertrand Cantat renonce donc à chanter dans les festivals. Première invitée d'RTL Soir tout à l'heure, Nadine Trintignant, la mère de Marie, lui demande sur RTL de stopper complètement sa tournée. 18h30 Alain Duhamel, ce soir Mayotte en crise. 18h35, on ne peut pas plaire à tout le monde, comme dirait l'autre. À la télé chez Ruquier ou sur scène dans sa nouvelle pièce Dîner en ville, Christine Angot pose les questions qui fâchent à son tour tout à l'heure d'être sur le grill sur RTL. 19h15, on refera le monde. Bonsoir Louis Baudin.
Bonsoir Marc-Olivier.
Enfin un peu de beau temps, non?
Oui, un peu de beau temps, exactement.
Très bien,
demain, enfin une journée de répit, mais c'est juste une journée.
C'est déjà pas mal.
Avec un temps sec et très ensoleillé quasiment partout. Quelques nuages le matin dans le nord-est, mais l'après-midi, grand soleil. Et puis à l'inverse, dans l'ouest, on aura beaucoup de soleil le matin, puis déjà un peu plus de nuages en cours d'après-midi. Midi, mais entre les deux, donc du soleil et de la douceur, puisque du coup, les températures vont en profiter pour grimper. Alors, pas au lever du jour, on sera pas très loin des gelées, notamment autour de la région Rhône-Alpes, mais l'après-midi, 13 à 15 degrés au moins dans la moitié nord et 15 à 18 degrés dans le sud.
Et à tout à l'heure, Louis Baudin.
RTL Soir.
Mais avant toute chose, Isabelle, cette histoire absolument consternante des dealers qui profitent d'une vieille dame atteinte de la maladie d'Alzheimer.
Ça se passe à Grigny, dans l'Essonne, dans le quartier de la Grande Borne. Depuis 6 mois environ, les trafiquants avaient posé leurs valises chez cette femme de 85 ans, totalement isolée. C'est à la faveur d'un dégât des eaux que les pompiers ont découvert le poteau rose, Guillaume Chiez.
Oui, la semaine dernière, ils sont appelés pour une intervention à travers les cloisons dans un appartement voisin. Ils entendent la timide voix d'une dame âgée qui appelle à l'aide. Je suis enfermée chez moi, je n'ai pas les clés. Les pompiers passe par la fenêtre de l'octogénaire et découvre un taudis, un appartement jonché de sacs poubelles, de détritus, une forte odeur d'urine dans l'air et dans un coin, de l'argent, de la drogue et des armes. En tout, 2 pistolets, 22 000 euros en petite coupure et 10 kilos de cannabis. La femme de 85 ans est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle ne bénéficie d'aucune aide socio-médicale. Depuis environ 6 mois, donc, des dealers du quartier ont flairé la bonne planque, se sont emparés de ses clés sans jamais s'occuper d'elle. L'appartement de l'octogénaire leur servait à entreposer une partie du butin, sans en tirer l'attention de qui que ce soit. Une longue enquête est en cours, témoignages et analyses scientifiques, notamment pour peut-être mettre la main sur les dealers. Quant à l'octogénaire, elle vient d'être placée dans un établissement pour personnes âgées.
Terrible histoire racontée pour RTL par Guillaume Chiez. L'affaire s'est dégonflée au fil des ans. Isabelle, le procès du groupe de Tarnac s'est ouvert aujourd'hui à Paris.
8 militants d'extrême gauche poursuivis pour la dégradation d'une ligne SNCF il y a 10 ans en région parisienne. Ils devaient être jugés pour terrorisme, mais cette qualification a finalement été abandonnée. Reste l'association de malfaiteurs. Thomas Proutot, vous suivez l'audience pour RTL. Les prévenus, Julien Coupa en tête, affichent, on peut le dire, une certaine désinvolture.
Oui, dès leur entrée dans la salle d'audience, les 8 accusés affichent ostensiblement l'ironie potache et le dédain que leur inspire lire ce procès. Il se pousse des coudes, s'esclave parfois, l'un s'affale sur son pupitre. Julien Coupa, en jean et pull marin, appelé à décliner son identité, regarde au ciel, puis ses pieds, mais jamais le tribunal lorsqu'il parle. La présidente ne se laisse pas déstabiliser et finit par recadrer en douceur Coupa, revenu sur son banc alors qu'il ouvre une barre de céréales. Si vous avez faim, je le comprends, mais vous pouvez sortir quelques minutes. Aura-t-on une pause pour le goûter ? Lâche son voisin de droite, tandis qu'à l'extérieur, des soutiens qui n'ont pas pu rentrer faute de place déclenchent une bronca. Les juges conservent leur calme et leur sérieux qui finit par s'imposer aux prévenus. Alors que l'on débat des témoins qui seront cités à l'audience, les 5 policiers antiterroristes qui ont signé le procès verbal qui incrimine le couple Coupa-Lévy demandent à être entendus anonymement. Julien Coupa se lève. Je dois avouer que les témoins anonymes dans ce dossier, ça me rappelle de mauvais souvenirs. Le tribunal tranchera tout à l'heure. Ce PV est un faux, tonne l'avocat des prévenus, donnant le ton de la défense pour les prochains jours. Le procureur, déjà brocardé à plusieurs reprises, tente de rester impassible. Nous démontrerons que tout cela est vrai.
À l'audience pour RTL, Thomas Proutot.
5 personnes, 4 hommes et une femme, ont été interpellés aujourd'hui à Grenoble dans une opération antiterroriste. Ils sont en garde à vue pour association de malfaiteurs. Les enquêteurs cherchent à établir leur lien avec 2 hommes partis en Irak et en Syrie, éventuellement un soutien financier.
RTL, il est 18h06.
Et dans un instant, donc, Mayotte, toujours sous tension.
18h08, RTL Soir avec Marc-Olivier Fogiel et la suite du journal d'Isabelle Choquet.
Et Mayotte est donc toujours sous tension ce soir avec une réunion décisive qui se tient en ce moment même.
Voilà plus de 3 semaines que l'île est en grève générale contre l'immigration clandestine et l'insécurité. Une grande manifestation a eu lieu ce matin encore à Mamoudzou, le chef-lieu de Mayotte. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est sur place depuis hier. Elle a annoncé une première série de mesures et aujourd'hui, elle rencontre le collectif des citoyens, l'intersyndicale et les élus. Raphaël Vantard, la rencontre a débuté il y a plus de 3 heures et en fait tout se joue maintenant.
Oui, parce que clairement c'est de cette réunion que dépend l'issue ou non de la crise à Mayotte. La ministre Annick Girardin reçoit l'intersyndicale ainsi que des collectifs de citoyens depuis plus de 3 heures. Ses responsables syndicaux et associatifs martèlent un discours. Il faut aller plus loin dans les mesures d'urgence pour l'île, notamment sur 2 points. Les mineurs isolés d'abord, ces enfants dont les parents ont été soit expulsés soit sont repartis aux Comores. Il y a aujourd'hui à Mayotte plus de 3000 enfants seuls, sans parents. Autre point de discorde, l'éducation. Les syndicats veulent plus de moyens pour ce qui est le département le plus pauvre de France, avec 80% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. De leur côté, les élus de Mayotte veulent la fin du conflit. Eux sont satisfaits des annonces d'Annick Girardin hier, notamment le renforcement des effectifs de gendarmerie. L'île est donc suspendue ce soir à ces négociations. Beaucoup de manifestants attendent un geste supplémentaire du gouvernement.
Merci Raphaël Vantard. Vous revenez tout à l'heure pour nous expliquer pourquoi la maternité de Mayotte pourrait bénéficier d'un statut d'extraterritorialité. Les infirmiers vont bientôt concurrencer les médecins. Isabelle, un décret doit être publié dans les semaines qui viennent.
Oui, ce texte crée un statut d'infirmier de pratique avancée, c'est-à-dire un nouvel échelon en fait entre médecin et auxiliaire médical. Une mesure pour lutter contre les déserts médicaux. Concrètement, il s'agit de nouvelles compétences pour les infirmiers. Bonsoir Jacques Serret.
Bonsoir.
Et ils pourront notamment prescrire des médicaments dans certains cas.
Oui, ces infirmiers ou infirmières pourront mener des entretiens, sorte de consultation en fait avec leurs patients, prescription de certains médicaments, prescription d'examens biologiques, d'examens radiologiques. Pour en avoir le droit, après 3 ans d'expérience, ils devront faire 2 années d'études supplémentaires. Sauf que voilà, les praticiens s'en émeuvent. Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France.
On veut faire prendre en charge les patients par des gens qui sont sous-formés. Pour la sécurité de prise en charge des patients, c'est tout simplement pas acceptable.
Pour le syndicat des médecins libéraux, ces infirmiers d'un nouveau genre seront des concurrents. Pas du tout, rétorque-t-on du côté des représentants des infirmiers, car eux aussi sont déçus par ce texte. Ça ne va pas assez loin, selon Philippe Tisserand, président de la Fédération nationale des infirmiers.
Le texte précise qu'elles agiront sous la coordination du médecin, mais surtout sous son autorité diagnostique et thérapeutique. Donc, je vois mal quelle place ces infirmières trouveront demain.
Quelle place, quelle rémunération? Il reste encore de nombreuses questions autour de ce nouveau statut dont personne ne se satisfait pour le moment.
Merci Jacques Serret pour RTL. Ça se confirme, l'économie française crée à nouveau des emplois.
Selon les chiffres de l'INSEE, le mouvement s'accélère. En 2017, on enregistre près de 269 000 nouveaux postes dans le privé, soit une hausse d'1,1%. C'était 2 fois moins il y a 2 ans et avant cela, eh bien, la France perdait des emplois. Illustration de cette embellie en Alsace, l'entreprise Caddy avait été placée en redressement judiciaire en 2014. Depuis, elle a embauché à tour de bras. Reportage RTL de Yannick Collant.
Fin 2014, au plus profond de la crise, Cady ne comptait plus que 128 salariés dans son usine de Drusenheim. Mais grâce à un redressement spectaculaire et au redémarrage de l'économie, Cady a réembauché Jean-Philippe Herzog, directeur général des ateliers réunis Cady.
C'est vraiment le besoin de la société par rapport à notre croissance, hein, 20%. Ça fait qu'on a besoin de main-d'œuvre. C'est pour ça qu'on a eu, durant ces trois premières années, la chance de pouvoir embaucher de manière ferme une centaine de personnes.
À l'image de Patrice Beyel, qui s'occupe de maintenance industrielle, il avait quitté l'usine en 2014. À 50 ans, il ne s'attendait pas à être rappelé en juillet dernier pour être réembauché.
Trois ans après, mon ancien chef qui m'a recontacté pour me demander si ça m'intéressait de revenir dans la société. C'était justement pour un CDI direct, quoi. C'est rassurant d'un côté et puis ça fait plaisir aussi, quoi.
Embauche également dans les services administratifs à l'image de Cynthia von Zouken, 25 ans, contrôleuse de gestion qui ne s'attendait pas à passer de stagiaire à CDI.
C'était mon stage de fin d'études. Je ne pensais pas du tout qu'il y avait des possibilités de recrutement à la suite. J'ai eu la chance de pouvoir revenir chez Cady deux mois après, tout de suite en CDI.
Cady n'a pas encore retrouvé le même nombre d'emplois qu'avant la crise, mais les perspectives d'embauche sont là, avec une croissance attendue de 10% en 2018.
Yannick Collomb pour RTL.
Ça va mieux, mais ça va mal. L'exécutif enchaîne les réformes et avance tel un rouleau compresseur qui lamine toute opposition, d'où ce coup de gueule cet après-midi à l'Assemblée du député communiste André Chassaigne.
Monsieur le Premier ministre, les dernières initiatives du gouvernement sont marquées du sceau du mépris à l'égard de la représentation nationale et donc de la démocratie. Mépris avec le recours aux ordonnances pour la réforme ferroviaire. Mépris par le rejet sans discussion de toutes les propositions portées par les groupes d'opposition. Ces coups de force répétés, monsieur le Premier ministre, marquent une dangereuse dérive aux accents de dictature technocratique.
Le député André Chassaigne à l'Assemblée, ça ne s'arrange pas entre Londres et Moscou. On vient d'apprendre la mort à Londres d'un exilé russe dans des circonstances assez mystérieuses. Il s'agit d'un homme d'affaires. La police antiterroriste est saisie par précaution. Dans l'affaire de l'espion russe empoisonné, Moscou clame son innocence et rejette l'ultimatum de Londres. La Russie refuse de coopérer tant qu'elle n'accède pas à la substance toxique qui a été utilisée.
Et aux États-Unis, la valse continue à la Maison-Blanche.
Donald Trump vient de limoger son chef de la diplomatie sans grand ménagement. Philippe Corbet, vous êtes à New York pour RTL. C'est par un simple tweet en fait que Rex Tillerson a appris qu'il était viré.
Oui, c'est un collaborateur de Tillerson qui l'a confirmé à la presse. Du coup, il vient lui-même d'être viré par la Maison-Blanche. En fait, tout le monde s'y attendait depuis des mois. Trump avait choisi Tillerson, PDG du géant pétrolier Exxon, parce qu'il connaissait Poutine, dont le président voulait se rapprocher. Mais son ministre a refusé de minimiser la menace russe. Cette nuit encore, il pointait du doigt Moscou dans l'affaire d'empoisonnement au Royaume-Uni, contrairement à la Maison-Blanche. Trump n'a jamais pardonné à Tillerson de l'avoir traité, je cite, de putain de crétin, après une réunion où il avait tenu des propos grotesques. Deux sujets semble avoir scellé son sort. Tillerson s'est opposé aux tarifs douaniers sur l'acier qui frappe les alliés et il n'a pas été consulté sur la Corée du Nord. Il pensait qu'avant toute négociation, il fallait que Kim entame vraiment la dénucléarisation.
Alors donc Tillerson éjecté, il est remplacé par le patron de la CIA, lui-même remplacé par une femme, et ça c'est une première.
Oui, Mike Pompeo qui devrait pousser vers la sortie de l'accord sur le nucléaire iranien cède sa place à sa numéro 2, Gina Haspel, une espionne qui a elle-même mené à plusieurs reprises des séances de torture et avait ensuite tenté d'en détruire les preuves, des méthodes aujourd'hui interdites, mais le président a dit qu'il aimerait les rétablir.
Merci Philippe Corbet, donc le correspondant de RTL aux États-Unis. À tout à l'heure Isabelle, vous revenez à 18h30.
À tout à l'heure.